dcl.ca.
Première Loge vous est présentée grâce au soutien de la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou. Ensemble, soutenons la radio d'ici qui enrichit notre culture locale et rassemble notre communauté.
Vous écoutez Première Loge sur les ondes de CKRL 89.1. Il est 16h, jeudi 20 mars, journée mondiale de la francophonie et journée mondiale du conte également. C'est la veille de l'équinoxe, ça se fait sentir. Bien sûr, ce ne sera pas on ne sera pas épargné de quelques flocons avant une véritable poussée des fleurs, mais quand même, on sent que ça se réchauffe et ça fait du bien. Et aujourd'hui, justement, dans ce sujet, on va parler avec l'agronome urbaine Lily Michaud d'un nouveau livre qu'elle nous propose. Si vous aimez le jardinage, protéger son potager des ravageurs et des maladies, elle a plusieurs livres à son actif. Donc, on aura la chance de discuter avec elle tout à l'heure. On va aussi parler avec Marie-Claude Leclerc de la Fabrique culturelle. On reviendra sur le lab de Spira, le lab en arts médiatiques qui a permis à plusieurs réalisatrices de réaliser des courts-métrages tout récemment, et la projection avait lieu à la bibliothèque Gabriel Roy. On va aussi parler de la fin des festivités en lien avec le 350e anniversaire du diocèse, et il y a un concert spécial qui a lieu ce dimanche. Richard Paré, des Amis de l'Orgue, va nous en parler en fin d'émission. On accueille aussi en studio un des gagnants de cette édition de Cégep en spectacle. Il est ex aequo avec un autre candidat, et c'est l'artiste Aïchak qu'on reçoit tout à l'heure pour parler de sa performance. On va aussi souligner la Journée mondiale de la francophonie avec une des animatrices de réseaux sociaux qui a été repérée par Voix visionnaire francophone. Ce sont des comptes TikTok qui se distinguent à travers la francophonie. Émilie Lafortune, pour son compte Émilie Cuisine, sera tout à l'heure avec nous pour nous parler. Et on débute l'émission en théâtre et en cinéma documentaire avec Suzanne Audet, notre chroniqueuse, avec nous en studio. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Alors, c'est Coupe à blanc que tu es allée voir cette semaine à Premier Acte. Ça prenait l'affiche. Et tout à l'heure, je pense que Charlie Cameron Verge était en studio avec Denis Lelièvre. Je l'ai également reçu vendredi dernier. Qu'est-ce que tu as pensé de cette pièce qui explore de fond en comble le thème des changements climatiques?
Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr qu'on peut dire que, bon, c'était peut-être un peu long, là, avec peut-être certaines petites longueurs, mais c'était pas grave parce que c'est conçu sous le modèle de la tragédie grecque. Maintenant, ça nous présente les conséquences à long terme des bouleversements climatiques. Mais moi, au début, je me disais, coupe à blanc, ça veut dire que c'est comme en forêt quand on coupe toute végétation, mais c'était absolument pas ça. C'est plutôt les coupes à vin blanc parce que dans la pièce, on nous montre qu'il y a des invités au dernier souper sur Terre qui est organisé par des amis, Antoine et Marie. Ils doivent boire leur excellente bouteille de vin rouge hors de prix dans des coupes à vin blanc. Alors, comme si c'était une hérésie, là, que c'est absolument pas acceptable. Puis ça va faire toutes sortes de chicanes dans les couples. Alors, pas drôle pour une petite cause comme celle-là, quand on sait que la principale cause, c'est plutôt dramatique à l'extérieur. Alors, la pièce, ça débute par une image forte. Asmodée, une jeune femme sans le sou, elle se traîne dehors par terre parce qu'elle a toutes les difficultés à respirer l'air insalubre qui règne maintenant sur terre. Alors, elle récite des paroles comme un mantra à nos pauvres enfants, à nos réformes, aux crises économiques, aux envies d'ailleurs, et maintenant, il ne fait plus bon vivre, nous allons tous mourir, si vous pouviez nous voir en ce moment. » Puis on se rend compte aussi que d'avoir des enfants à ce moment-là, c'est rendu extrêmement difficile parce qu'on est obligé de payer des espèces de taxes pour pouvoir devenir parent. Alors, c'est presque tout à fait inimaginable. Cette personne-là, Asmodée, elle en veut à tout le monde. Elle est enragée contre tous les habitants qui ont été irresponsables sur Terre, qui ont causé la destruction de la couche d'ozone. Pendant ce temps-là, pourtant, Antoine et Marie dégustent leur vin, justement, avec leurs amis. Le décor de leur appartement est vraiment beau, là, très recherché. Eux, ils sont très chanceux parce qu'ils font partie des 1% les plus riches sur Terre encore. Ils ont le moyen de se payer un voyage vers une planète plus accueillante. Alors, les conversations sont très drôles, mais nous font en même temps comprendre les causes de la décroissance de la qualité de vie sur Terre. La pièce, elle est basée sur un propos universel, notre responsabilité individuelle dans le réchauffement planétaire, mais elle est en même temps très représentative dans son interprétation de la nation québécoise avec son langage qui est très coloré. Alors, on ne nous suggère pas de solution à la crise climatique, on nous laisse plutôt réfléchir. Peut-être que placé devant la confrontation de notre responsabilité personnelle, on fera une prise de conscience et on voudra changer nos comportements.
Eh bien, c'est une pièce qui amène à réfléchir, j'imagine.
Tout à fait. Alors, c'est ça, à la représentation de vendredi, demain soir, le 21 causerie. Mars. Exactement. Alors, une rencontre après la pièce avec les artistes qui sont sur scène et avec Clémence Roy d'Aris, qui est la cofondatrice de l'organisme Éclore, qui veut placer l'art et la culture à la base d'une transition écologique au Québec. Ça devrait être très intéressant. Puis, le samedi 22 mars, il y a un 5 à 8 avant la pièce qui va permettre aux personnes intéressées de rencontrer les membres des collectifs Verdun qui sont à la base de la pièce et Agora. Ces personnes-là pourront y déguster le cétane de Nancy Cameron. En fait, c'est la maman du concepteur de la pièce. C'est un aliment à base de protéines végétales qui nous permet de moins vouloir de viande dans nos assiettes. Puis, il paraît que c'est extrêmement délicieux. Donc, cette possibilité-là de goûter ce mets-là, c'est sur réservation, c'est gratuit, mais une contribution volontaire serait très appréciée. Puis, la pièce suivra au prix habituel.
Et ça me fait penser un peu à une lecture que je suis en train de faire, Suzanne, parce qu'on a la chance de parler avec l'auteur du livre Pirates Carbone à l'émission du Machin Club ce dimanche à 17h. Ça s'appelle Pirates Carbone parce que, évidemment, il y a une taxe un peu similaire à celle qu'on fait payer aux parents dans la pièce. Mais là, c'est une taxe que les citoyens doivent payer en lien avec... en fait, ils ont des crédits carbone.
OK.
Et dépendamment de ce que tu achètes, tu perds tes crédits, puis tu en as un certain nombre par année. Puis l'histoire du livre, c'est un jeune de 18 ans qui vient juste de quitter la maison parentale et qui, pour la première fois, doit gérer tout ça. Puis finalement, il manque de crédit carbone, donc ils vont tenter d'en voler. C'est un thriller et c'est vraiment captivant. Donc, j'ai bien hâte d'avoir les commentaires de Philibert, notre jeune lecteur, sur ce roman suspense dystopique dans les romans dystopie aux éditions La Bagnole. Aussi samedi, parce que tu parles de cette femme qui a fondé Éclore.
Oui, exactement.
Eh bien, samedi, c'est également la grande manifestation pour les arts numéro 5 par la grande mobilisation pour les arts au Québec. Ça se passe dans 5 villes à Québec et au Québec, non, pardon, dans 6 villes au Québec, Montréal, Rouyn-Noranda, Sainte-Rose-du-Nord, Gatineau, Québec et Rimouski. Si vous avez envie d'y prendre part, ça va commencer à 15h au 11h50 Honoré Mercier.
Merci de l'invitation.
Ben, ça fait plaisir. Je pense que c'est important de se tenir informé de ces mobilisations citoyennes pour soutenir toutes les formes d'art qui sont mises au défi présentement. Et Suzanne, tu es allée au cinéma voir un film qui met en valeur un patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Exactement. Alors, aussi surprenant que ça puisse être, au Québec, on produit des belles choses. Bon, c'est un film, un documentaire de Bruno Bouliane. Bruno Bouliane, là, il a participé à l'émission télé La course Destination Monde. Tout le monde a des bons souvenirs de cette compétition-là. Puis, lui, c'était en 1990, il était là en même temps que Denis Villeneuve. Naturellement, c'est Denis Villeneuve qui a gagné, là, mais ça l'a pas empêché d'être performant aussi. C'était une présentation de court-métrage à ce moment-là, qui était réalisée par des jeunes Québécois dans divers pays du monde. On a tous des souvenirs impérissables de cette belle compétition. Maintenant, dans ce film, on suit Kevin Gagné, un jeune homme de l'île aux grues qui veut renouer avec la tradition de la construction des canaux à glace. Ces canaux-là, dans des temps ancestraux, ils étaient essentiels pour le transport des passagers et des marchandises lorsque les traversiers ne desservaient pas encore les îles du Saint-Laurent, comme l'île d'Orléans, l'île aux Coudes ou bien bon, d'autres îles dans le Saint-Laurent. Parce qu'il y avait des agriculteurs qui étaient allés s'installer à ces endroits-là sans trop se rendre compte qu'ils auraient besoin d'un moyen de transport pour relier la terre. Kevin Gagné, il fait appel à un retraité du village qui a construit ce type de canot toute sa vie. Ce monsieur-là, il a même aidé son père quand il était un enfant de seulement 8 ans. Alors, on peut dire qu'il est très performant dans la capacité de construire un canot qui va être performant. Le but de ce projet, c'est de faire le passage des savoirs entre les générations et qu'on démontre de la reconnaissance et de l'empathie envers les aînés du village. Les deux constructeurs se mettent donc à la recherche de bois de cèdre et de chêne dans les environs. Comme Kevin désire faire des courses avec le canot, un sport extrême sur le fleuve en hiver, on l'a vu à la dernière course du carnaval cette année, ils devront faire l'armature en métal et le recouvrir d'une mince couche de fibre de verre. Ils mettront 430 heures à réaliser le canot, puis ils vont l'appeler le phénix, comme l'oiseau qui renaît de ses cendres après sa disparition. C'est très symbolique. Les images de la navigation sur le fleuve avec le canot sont superbes. Les rameurs de l'île aux grues pourraient peut-être redevenir des champions comme dans les années 60 au Carnaval de Québec. Mais ce que j'aime comme titre, là, c'est l'autre festival, le Festival de la banquise de Portneuf. On leur souhaiterait ça. Alors, si vous avez le goût de mieux connaître la vie des insulaires sur les îles du fleuve, les films de Pierre Perrault pour la suite du monde ou certains autres pourraient vous satisfaire grandement.
Et celui-là, tu l'as apprécié?
Beaucoup, beaucoup, parce que je trouve que les images sont vraiment remarquables. Puis de voir les glaces sur le fleuve Saint-Laurent, ça nous plaît beaucoup. Surtout quand on est allé voir la dernière compétition, justement, du Carnaval de Québec, et qu'on a réalisé que c'était drôlement beaucoup plus dangereux que ce qu'on imaginait, qu'il y avait des membres de l'équipage qui mettaient peut-être leur vie en danger. Donc, soyons très admiratifs de ces gens très performants. Puis le canot de l'île aux grues pourra peut-être leur permettre d'être des vainqueurs dans une course ultérieure.
Aussi, il faut être fier puisque ça représente une partie de notre héritage culturel au Québec. C'est pour ça que ça a été désigné par l'UNESCO comme un patrimoine immatériel. C'est ça, un patrimoine vivant.
Vivant, exactement.
Parce que ça se transmet seulement si t'es capable de trouver des gens qui ont l'expérience. Tu peux pas partir faire du canot à glace sans avoir un mentor auprès de toi parce que c'est dangereux.
Exactement.
Merci beaucoup, Suzanne. As-tu des plans culturels cette semaine?
Tout à fait. Alors, vendredi, je vais aller au Musée des Beaux-Arts parce que il y a le Festival international du film sur l'art avec un film sur la fabrication des masques autochtones. ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, ben, je vais aller voir Led Zeppelin symphonique au Grand Théâtre à 20h demain soir. Samedi, mais il y a aussi la parade de la Saint-Patrick sur la rue Cartier. Il y a le film Habiter la maison qui est dans tout le bon cinéma de la ville. Dimanche, je retourne au FIFA pour Résonance Acadie avec Phil Como et le film Laurentienne à Saint-Pacôme, la flore laurentienne. Donc, je pense que c'est très local comme possibilité de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos régions. Donc, c'est ça. Je me mets au courant de ce qui peut être vraiment porteur pour mieux connaître les fibres profondes de nos villes ou de nos villages.
Et justement, le Festival international du film sur l'art est en cours au Musée national des beaux-arts du Québec. Vous pouvez aller directement sur le site du musée pour voir les projections qui vous sont accessibles. Ça veut dire qu'on se retrouve lundi avec un programme bien chargé et plein de choses à nous raconter.
Exactement. Merci.
Et bonne fin de semaine, Suzanne. On va écouter une chanson d'harmonium parce que, je sais pas, moi, au printemps, j'ai envie d'écouter du harmonium. On écoute pour un instant.
J'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. Ça m'a permis enfin de mieux me voir. Sans m'arrêter, j'ai foncé dans le noir, pris comme un loup qui n'a plus d'espoir. J'ai perdu mon temps à gagner. J'ai besoin de me trouver une histoire à me conter. Pour un instant, j'ai respiré très fort. Ça m'a permis de visiter mon corps. Des inconnus.
Harmonium, pour un instant, vous écoutez Première Loge sur les ondes de CKRL. Aujourd'hui, Journée mondiale de la francophonie, j'en profite pour aller à la rencontre de TikTokers qui ont été nommés parmi les voix visionnaires francophones TikTok 2025, des créateurs, des entrepreneurs, et j'aurai la chance dans quelques instants de discuter avec Émilie Lafortune, qu'on peut retrouver avec l'adresse sur Instagram ou sur TikTok, Émilie Baramba, cuisine avec un Z. Elle nous propose de découvrir ses produits, mais aussi différentes recettes qui font rayonner sa culture des Caraïbes et qui nous permettent à nous de se l'approprier dans notre propre cuisine. Alors, elle fait rayonner la gastronomie haïtienne et caribéenne à l'échelle mondiale, mais à travers aussi les voix francophones. Donc, c'est pas tout le monde qui décide de s'exprimer en français sur ces différentes plateformes, mais il y en a beaucoup qui le font et ça permet à la francophonie de rayonner à travers le monde. Émilie Lafortune est avec nous au bout du fil. Bonjour, Émilie.
Oui, bonjour à vous tous. Je suis super heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, j'espère qu'on va avoir une super conversation.
Oui, bien, ça fait plaisir de vous accueillir et que vous ayez accepté notre invitation. Alors, vous êtes établie à Montréal. Et puis, pouvez-vous nous raconter comment votre communauté s'est bâtie et comment vous avez réussi à monter une communauté de plus d'un million de personnes qui vous suivent?
Ah, bien, c'est quand même une longue histoire, mais je vais essayer de faire un résumé. Il faut savoir que ça fait 3 ans que je vis ici et au Canada, plus précisément au Québec. J'étais avant en Argentine. Donc là, en arrivant ici, je travaillais comme tout le monde, normalement. Puis, en m'étant libre, je devrais trouver quelque chose à faire parce que je me sentais un peu étrangère, si je peux le dire comme ça. Et j'avais déjà cette passion-là pour la cuisine et je me suis dit, pourquoi pas partager des recettes sur mes réseaux sociaux. En ce temps-là, j'avais même pas 9000 ou 900 followers sur TikTok. Je m'en souviens que c'est vraiment sur TikTok que ça a commencé. Et tout d'un coup, un de mes vidéos a explosé. Puis depuis lors, je me suis laissée aller parce que les gens étaient tellement contents de voir des recettes et me questionner à chaque fois. Et comment tu fais ça? Ça a l'air tellement bon. Puis là, et puis j'ai trouvé vraiment... cet espace-là que TikTok m'a donné d'être moi-même, d'être authentique, de partager la richesse, la culture de mon pays et d'origine qui est Haïti. Donc là, c'est vraiment au fil du temps, naturellement, d'être moi-même en partageant mon amour pour la cuisine que j'ai pu bâtir cette forte communauté-là.
Et votre compagnie, parce que au-delà du compte TikTok, vous avez vos propres produits. Est-ce que c'est venu avant ou après?
Ah, ça c'est venu après, avec l'impact que j'ai eu sur TikTok. Donc je me suis dit c'est vraiment le moment et de venir avec ma compagnie qui est vraiment qui me ressemble beaucoup parce que j'adore cuisiner, j'adore les saveurs, les épices et tout.
Mais parlez-nous un peu justement de Goût de ça, votre compagnie. Comment on peut s'en procurer ici à Québec, par exemple?
Ah ben la compagnie, ça s'appelle Le Goût de ça. Puis on fait des marinades de saveurs tropicaux et de saveurs caribéennes de mon pays. Puis on fait des sauces piquantes. Et si vous voulez retrouver nos produits, ça va être sur notre site legoutdeça.com et on a tous les points de vente sur le site.
Et vous avez réussi à vous bâtir donc tout un réseau autour de vos produits grâce aux gens qui vous suivent principalement?
Exactement. C'est vraiment ça qui m'a amené à bâtir cette entreprise-là. C'est grâce à la visibilité que TikTok m'a donnée et que j'ai pu bâtir cette entreprise-là.
Est-ce que vous aviez des attentes au départ quand vous avez commencé à faire des vidéos sur TikTok? Pensez-vous atteindre autant d'abonnés un jour?
Non, j'ai jamais pensé à ça. C'est ça le fun, parce que je le faisais vraiment dans mes temps libres. Même pas, je vais prendre un exemple, je ne postais même pas une fois par semaine, des fois une fois par semaine, une fois chaque deux semaines. C'est juste que je voulais trouver quelque chose à faire dans mes temps libres. J'ai jamais pensé que j'allais avoir un impact aussi influent. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, ça m'a amené là et je suis tellement contente, reconnaissante de cette plateforme-là qui est TikTok, que tout a commencé là. On poursuit l'aventure.
Alors, TikTok est un peu l'élément déclencheur de votre fibre entrepreneuriale.
Exactement.
Et là, on voit bien à travers vos différentes vidéos que les événements s'enchaînent, Gala Dynastie, vous avez fait goûter vos produits à Justin Trudeau.
Exact.
Alors, parlez-nous un peu de tous ces événements-là récents. Lequel s'en vient pour vous?
On a fait pas mal d'événements justement après. Vous avez mentionné le Gala Dynastie qui était vraiment une porte ouverte pour moi sur le Québec, à Montréal, si je peux le dire comme ça. Donc là, après cette opportunité-là, j'avais quand même pas mal d'invitations un peu partout. Tout le monde avait la curiosité de savoir, de connaître un peu mon histoire, qu'est-ce qui m'a amené ici au Québec et qu'est-ce qui m'a poussé de créer des contenus. Et justement, en français, mais je me rappelle à ce temps-là, mon français n'était pas trop top. Donc là, j'ai dit, c'est ça, je dois m'adapter. Puis je suis dans une communauté quand même francophone ici au Québec et j'adore la langue. Puis il faut vraiment s'intégrer. Donc là, c'est pour ça que j'ai profité de différentes opportunités d'être dans divers événements. Et puis, c'est ça, il y a pas mal d'événements qui s'en viennent. Donc, on les attend.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement de faire partie de cette liste de voix visionnaires francophones TikTok 2025?
Ah, beaucoup de fierté quand même, parce que comme je viens de le dire, quand j'ai commencé à créer du contenu, je ne m'attendais même pas à avoir un tel impact. Et être reconnue pour ça aujourd'hui comme voix visionnaire par TikTok, c'est une très belle validation de tout le travail et la passion que je mets dans ce que je fais. Et ça me donne encore la motivation de continuer à évoluer, à améliorer mes recettes ou même mon entreprise. Donc, je suis vraiment heureuse.
J'étais curieuse des événements qui s'en viennent parce que moi, je suis une grande fan de l'émission Dans l'œil du dragon et je me disais peut-être qu'elle y passera.
franchement, j'y pense sincèrement et je pense que ça va être une surprise. Je ne vais pas encore annoncer la date, mais c'est quelque chose que... Et qui m'intéresse.
OK, génial. Alors, faut vous suivre, Émilie Barre en bas, Cuisine avec un Z sur TikTok ou sur Instagram. Et on peut découvrir les produits et votre livre de recettes sur legoutdesa.com.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Émilie Lafortune, d'avoir été avec nous et bon succès dans la suite.
Merci à vous. Merci beaucoup.
On va aller en pause et au retour de la pause, on va parler de ce qui se passe avec la fabrique culturelle. On parle également du gagnant avec le gagnant de Cégep en spectacle qui va être avec nous en studio tout de suite au retour de la pause. On se retrouve donc dans quelques instants.
C'est KRL 89.1.
CKRL vous donne rendez-vous pour son événement annuel exceptionnel, le Radiothon 2025. Faites un don pré-Radiothon ou renouvelez votre carte de membre avant le vendredi 25 avril, 16h30. Notre objectif, 50 000 $. Profitez de cette chance unique de gagner le prix spécial don pré-Radiothon ou le prix spécial membre de CKRL d'une valeur de 300 $. Les tirages auront lieu le vendredi 25 avril à 16h30. Détails sur ckrl.qc.ca. Le Radioton, du 25 au 27 avril. Votre soutien est capital.
Je suis la soprano Élisabeth Saint-Gelais et je vous invite à prendre la route des concerts. Au programme, des moments musicaux classiques, magiques, des lieux parfois méconnus, des salles patrimoniales, des paysages enchanteurs à contempler un peu partout au Québec. Chose certaine, là où vous irez, la musique vous attend et saura vous conquérir. Alors prenez l'air et suivez la route des concerts.
La troupe de théâtre Les Grands Enfants célèbre leur 35e anniversaire avec une saison 100% québécoise. Du 9 au 12 avril, nous vous présentons Le Temps des Lilas, un drame de Marcel Dubé dans une mise en scène de Sylvain Perron. Les représentations ont lieu à la Polyvalente de l'Ancienne Lorette du mercredi au samedi à 19h30 ou samedi après-midi à 14h. Les billets sont au tarif de 22 $ ou 18 $ pour étudiants et l'abonnement pour voir les trois pièces est en prévente à 50 $ jusqu'au 1er avril. Billetterie en ligne au lesgrandsenfants.com.
Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca.
Et si le principe de la cohérence cardiaque s'appliquait à votre organisation? Et si le cœur de celle-ci se synchronisait parfaitement à vos valeurs? Chez Perseus, tout est une question de cohésion. Notre équipe s'assure que votre organisation soit dotée d'une stratégie solide et fidèle à vos valeurs, pour ensuite établir les différentes tactiques afin d'atteindre vos objectifs. Plans de communication, outils technologiques, images de marque, sites web, médias sociaux, promotion, développement stratégique et tactique. Travaillons ensemble pour renforcer la base de votre organisation et devenez maître de votre réussite. Perseus. Accompagner, développer, communiquer. PerseusTactique.com ou parler à un humain au 581-781-1333.
Première Loge vous est présentée grâce au soutien de la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou. Ensemble, soutenons la radio d'ici qui enrichit notre culture locale et rassemble notre communauté.
Vous écoutez Première Loge sur les ondes de CKRL 89.1, Pamela Bisson avec vous jusqu'à 17h30. J'ai la chance d'accueillir en studio le gagnant de la finale régionale de Cégep en spectacle, gagnant mais ex-aequo aussi avec un autre étudiant, Maxime Roy. Et c'est Aïchak que je reçois en studio. Il a livré une performance qui l'a permis de se hisser dans la ligue des gagnants de Cégep en spectacle. Donc cette année, c'est 4000 participants qui participent à travers la province et la prochaine étape sera le 26 avril pour l'étape provinciale. On va valider tout ça avec lui qui est avec nous. Bonjour Aïchak.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Comment tu te sens?
Ah, je me sens très bien, très bien. C'est par rapport au Cégep en spectacle, la finale régionale, j'en ai beaucoup profité avec ma famille après ma performance.
Ça s'est passé le 15 mars dernier.
C'est ça, 15 mars, oui.
Donc, il y a plusieurs choses que tu te mérites avec cette reconnaissance-là. Quelle différence ça va faire pour toi dans ton parcours et qu'est-ce que c'est exactement que tu gagnes en tant que gagnant? Il y a deux gagnants, c'est que c'est cool, mais vous avez chacun droit à tout ça, là.
On a eu chacun des prix différents. Par exemple, moi, j'ai eu trois prix. J'ai eu le prix du gagnant de la finale régionale. Puis ensuite, j'ai eu deux autres prix pour deux festivals. J'ai eu le prix de la finale, pas la finale, l'École nationale de chansons à Granby. Puis dans le fond, ça va me permettre à passer à des auditions directement et à pouvoir participer ensuite à un festival. Puis j'ai reçu aussi le prix d'Oskiko, un festival à Rwanda.
Rwanda,
exact, à Val-d'Or. Donc, c'est deux bons prix, deux très bons prix.
Donc, ça te permet de participer au festival et de faire une autre performance devant plus, des milliers de spectateurs.
Devant des milliers de spectateurs. Ça va être ma première fois, puis j'ai bien hâte de voir ça va être quoi l'expérience devant plusieurs
personnes.
Et sinon,
tu mérites aussi une bourse?
Oui, exact. J'ai eu une bourse de 750 $ pour avoir gagné la finale régionale.
Alors, Cégep en spectacle, ça existe depuis 46 ans quand même. Donc, tu te tailles dans une grande tradition. Plusieurs artistes bien connus aujourd'hui ont émergé à travers Cégep en spectacle. Donc, je peux comprendre la grande fierté qui t'habite. Maintenant, parle-nous un peu de comment tu t'es devenu un artiste de ton côté avant Cégep en spectacle.
Ben, j'ai commencé dans ma communauté à Manoan, communauté Atikamekw, quand j'avais environ 12 ans. Et j'ai commencé parce que, dans le fond, mon oncle, c'est à Ottawa, il est aussi chanteur, puis il est dans la musique également. Et un jour, il m'a donné une guitare en cadeau à ma fête. Puis j'avais pas l'intention de jouer de la musique dans ce temps-là. Puis quand il m'a donné la guitare... Là, j'ai commencé à jouer avec, tranquillement, pas vite. Puis là, je me suis inspiré de lui aussi pour pouvoir commencer la musique. Je me suis inspiré de chanteurs connus aussi dans le monde, Eric Clapton, Jim Hendrix. Donc, au début, j'ai commencé seulement la guitare. Ensuite, j'ai commencé par la guitare électrique, donc pendant environ 2 ans. Et en 2021-2022, j'ai commencé le chant à Machteyats, quand j'ai déménagé dans cette communauté à Machteyats. Et j'ai commencé le chant dans mon sous-sol, tout seul. Et j'ai pas eu de cours. J'ai pas eu de cours de musique.
Autodidacte.
Exactement, j'ai tout appris à l'oreille. Puis donc c'est ça. Donc j'ai commencé à chanter. Ça a été long un peu de trouver ma voix. Puis c'est ça. Donc.
Et donc ce qui t'a permis de remporter le Grand Prix à Cégep en spectacle, c'est une composition originale?
Exact, oui. Ma composition originale, elle s'appelle Mamou, qui veut dire ensemble. Puis elle raconte la relation entre moi et mes frères.
Et donc, tu chantes dans plusieurs langues?
Exact, oui. Je chante en inou, en atikamekw et en français.
Et on ne pourra pas l'entendre, malheureusement, mais un jour, tu vas enregistrer tes compositions, n'est-ce pas?
Un jour, c'est sûr que je vais les enregistrer, mais pour l'instant, je me concentre un peu plus dans mes études. Mais quand je vais avoir le temps dans la musique, c'est sûr que je vais enregistrer mes compositions.
Et justement, tu étudies au Cégep Sainte-Foy, de Sainte-Foy?
Exact, oui.
Donc, tu es basé à Québec présentement?
Oui, ouais, en appartement.
Alors, est-ce que... c'est sûr que là, tu dis que tu te concentres sur tes études, mais est-ce que tu as exploré un petit peu ce qui existe à Québec pour permettre aux jeunes artistes d'émerger, toutes les structures, Première Ovation, tout ça? T'as-tu regardé un peu?
J'ai pas beaucoup regardé pour l'instant, mais on m'a conseillé d'aller voir, mettons, Ampli Québec ou la Calque aussi, pour avoir des subventions, pour pouvoir enregistrer dans des studios, puis aussi au niveau de l'écriture des chansons. Je vais encore plus explorer ce domaine, mais pour l'instant, j'avoue, pour l'instant, je suis pas mal dans mes études, puis beaucoup d'examens, donc d'après moi, cet été, je vais beaucoup me concentrer sur la musique. Je vais avoir beaucoup le temps.
Et pour la prochaine étape de Cégep en spectacle qui aura lieu au Cégep de Valleyfield, est-ce que tu vas chanter la même composition?
Exact, oui, je vais chanter la même composition, les mêmes musiques, parce que c'est une règle qui est établie dans le Cégep en spectacle. On est obligé de garder les mêmes chansons, la même performance jusqu'à la fin.
Et donc, c'est juste un différent public et les mêmes et différents juges, peut-être?
Exactement, c'est pour ça que je peux pas changer de musique ou de concept, parce que c'est toujours des juges différents à chaque fois, à chaque finale. Donc, c'est pour ça.
Alors, d'ici au 26 avril, tu te concentres sur tes examens de fin de session, mais tu as quand même aussi une partie de fébrilité qui doit t'animer pour cette dernière étape.
Oui, exact. Les études sont très importantes pour moi, mais la musique aussi. À chaque soir, je pratique ma voix, la guitare, toujours. Mes cousins, ils peuvent le témoigner. Ils m'entendent toujours chez nous, dans mon salon, en train de chanter.
OK, vous êtes en colocation?
Oui, c'est ça, oui, on est trois en colocation.
Ben, c'est super. J'espère que l'été te donnera de l'espace pour aller voir ce qui se passe à l'Ampli Québec, parce qu'effectivement, il pourrait vraiment t'outiller pour t'aider dans une carrière un peu plus professionnelle, si c'est ce que tu souhaites faire dans le domaine de la musique. Mais sinon, on t'encourage bien sûr à te concentrer sur tes études en sciences humaines.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Eshak, d'avoir été avec nous, Miigwech.
Merci, Miigwech.
Et puis, je ne sais pas si je l'ai prononcé comme il faut, mais en tout cas, j'ai essayé.
Oui, c'était correct.
Est-ce que tu as un artiste autochtone que tu aimes bien et que tu as envie de faire découvrir à nos auditeurs?
Ben, il y a bien sûr mon oncle, Saga Ottawa, qui...
Je ne sais pas si je vais arriver à le trouver. Comment tu appelles son nom?
S-A-K-A-Y. Et Ottawa comme la ville d'Ottawa.
OK. Je vais chercher ça, S-A-K-A-Y, et on va peut-être être capable de faire... Ah, ben oui, voilà, je le trouve. T'as-tu une chanson préférée?
Oui, ma musique préférée de lui, elle s'appelle Miigwech. Puis,
voilà.
Puis dans le fond, je la chante dans au cégep en spectacle, dans l'une... J'ai deux chansons, puis j'ai ma composition et cette musique Miigwech qui vient de mon oncle.
Bon, ben à défaut d'entendre ta propre composition, on va écouter ta grande inspiration, celui qui y a permis à ta musique, à toi d'émerger en te donnant une guitare il y a de cela quelques années.
Exact.
Merci beaucoup d'être passé en studio, Miigwech.
Merci, au revoir, Pamela.
Bye-bye.
Hey, 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 hey Cette chronique est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
Vous écoutez Première Loge sur les ondes de CKRL. C'est le moment de retrouver Marie-Claude Leclerc de la Fabrique culturelle, notre rendez-vous bi-hebdomadaire.
Oui, oui, c'est ça, bi-hebdomadaire, toutes les deux semaines. Oui. Allons-y autrement.
Oui, la biennale. Ah, on ne peut pas
Mon
dire
Dieu,
ça
trop,
non plus.
Trop d'importance. Trop d'importance. Une biennale à toutes les deux semaines.
Oui. Et là, on va parler, Marie-Claude, d'une personne qui a beaucoup d'importance sur la culture québécoise.
Oui, je pensais que tu allais dire pour moi. Pas spécifiquement pour moi, mais oui, pour la culture québécoise. Puis à quelque part, en fait, cette série-là qui s'appelle Sur les épaules des géants est vraiment une série qui interpelle ces géants-là de notre culture, puis qui veut faire un petit survol, hein, un récapitulatif d'une certaine façon de leur carrière, mais surtout de voir s'ils peuvent nous transmettre un peu une partie de leur savoir, hein, de ce qu'ils ont compris de la vie, d'où est-ce que ça les a amenés. Alors, on avait une première saison où il y avait, entre autres, Sœur Angèle. C'est une des capsules que j'ai, je dois dire, vraiment beaucoup aimée. Et j'arrive avec celle-ci, avec... Louise Portal. Et on a un petit attachement spécifiquement pour celle-là. C'est la dernière capsule de notre collègue, caméraman, monteur, réalisateur, Mario Picard. Donc, c'est le dernier contenu sur lequel il a travaillé. Écoute, c'est étoffé parce qu'il y a beaucoup d'archives qui sont mises de l'avant et c'est comme une capsule qui se fait en trois temps. Donc, une première, comme je disais, on plonge dans les souvenirs, on va comprendre qui est cet artiste-là. Pour certains, surtout pour les plus jeunes, ben là, il y en a plusieurs qui ne l'ont pas connu tant que ça, Louise Portal. Pourtant, 48 films à son actif, 41 séries télé.
Elle est même dans le cyclone de Noël.
Ah oui! Je l'ai pas vue! Écoute, j'irai voir ça.
Une nouvelle génération a pu la découvrir une vieille dame sénile.
Mais bon, elle a commencé... écoute, c'était une bombe, Louise Portal. C'était vraiment, écoute, un canon de beauté exceptionnel. Elle est toujours très belle, ceci dit, mais dans son jeune temps, bon, elle faisait tourner les têtes. Elle était dans le déclin de l'Empire américain et puis dans les invasions barbares, bien entendu. Et puis, ce que je ne savais pas, par exemple, c'est qu'elle a plusieurs albums à son actif. Elle a chanté, Louise Portal.
Oui, puis elle écrit aussi.
Elle écrit, et ça aussi, je ne savais pas ça. Elle écrit, mon Dieu, depuis 1964, elle était encore toute jeune quand elle a commencé à faire des journaux intimes. Et ces journaux intimes, à un moment donné, elle a fait « J'ai beaucoup trop de stock. J'ai pas d'enfant. Que vais-je faire avec toutes ces caisses de matériel le jour où je vais décéder? » Donc, elle a appelé la BANQ, Banque et Archives nationales du Québec, pour dire « Écoutez, moi, j'ai tout ce matériel-là. J'aimerais en faire un legs de mon vivant. » Alors, ils sont venus, ils ont regardé la matière, ils ont été complètement... Ils sont tombés sous chambre. Bien sûr, il y a des journaux, il y a plein de choses, mais on parle de 140... Elle est rendue, pardon, à son 149e cahier d'écriture, et il y en a 115 qui sont actuellement aux Archives nationales du Québec. Alors, c'est pas peu dire. Fait que ça, c'est ses cahiers de journaux intimes, mais elle a aussi des œuvres écrites, donc des livres qu'elle a faites. Donc, vraiment une femme aux mille chapeaux, avec une énergie vraiment débordante. Puis, l'extrait que j'ai choisi, je l'aime beaucoup parce que, elle explique qu'elle vient aussi d'une famille de créateurs et de créatrices. Son père, qui était médecin, en fait, a pris le nom de Portal comme nom de plume parce que c'était la pointe, bien entendu, son nom. Et lorsque Louise a finalement rentré au conservatoire, elle a décidé de prendre le nom de plume de son père pour se différencier, en fait, des autres. Ceci étant dit, la première fois qu'elle a fait sa demande au conservatoire, elle a été refusée. Et donc là, le passage que je vous présente, c'est qu'elle nous présente son passage au cégep, en fait, parce qu'elle a fallu qu'elle continue finalement ses études. Et c'était le tout début des cégeps au Québec. Alors, on l'écoute.
Je suis refusée au conservatoire par l'École nationale, puis je fais « Ah ouais? Vous allez voir ce que vous allez voir! » Et finalement, je rentre au Collège Sainte-Marie, c'est la première année des cégeps. On est en 68. Au cégep, là, soyons francs, là, j'ai passé mon année à cafétéria déguisée. Ben, tu sais, c'était à l'époque où on avait des grandes soutanes de prêtres qu'on s'appropriait avec des grands bois. Puis, tu sais, on rêvait d'être des artistes, tu sais. Alors, ça a été ça. Puis, j'ai eu cette troupe-là du Cégep du Vieux-Montréal qui m'a permis d'avoir un rayonnement, d'avoir un premier prix d'interprétation, d'aller en France en stage.
Cette riche expérience outre-mer devient un formidable tremplin pour Louise.
3 semaines en France dans 3 écoles de théâtre, à Paris, à Nancy, puis à Strasbourg. Puis là, je vais me représenter au conservatoire, puis là, je vais être acceptée.
C'est à ce moment précis qu'elle prend la décision de porter le nom d'artiste de son père.
Ah oui, complètement, parce que quand tu nais jumelle...
Légendaire Louise Portal.
Légendaire Louise Portal. Écoute, quelle personne... Je trouve ça beau parce que c'est le fun de voir aussi que ces gens-là qui ont eu toute une carrière n'ont pas nécessairement commencé comme tout cuit dans la bouche, genre la route pavée d'or jusqu'au premier rôle. Je trouve que ça fait du bien quand on se rend compte que ben un parcours, c'est pas une ligne droite. Fait que une magnifique série, donc en 2 saisons. Il y a un autre épisode qui s'en vient tout bientôt. Les autres sont déjà accessibles donc sur lafabriqueculturelle.tv ou dans la zone Vidéotel Québec directement si vous souhaitez. Donc ça vaut la peine pour les grands et les moins grands qui ne connaissent pas ces personnes-là, mais en fait, avec un charisme fou. Il y a Jacques Goldstein aussi dans la première saison.
Ah, lui, on l'adore.
On l'aime-tu un peu?
Et on va revenir maintenant sur un événement qui a eu lieu à
oui,
Québec tout récemment.
Je les aime tellement. J'en ai parlé la dernière fois parce que la dernière fois, moi et Elisabeth, on courait à la présentation donc de Spira, de la sortie de labo de ces 6 jeunes femmes-là qui ont participé. Donc, les labos Spira, comme je le mentionnais la dernière fois, c'est une initiative de Spira qui poursuit le legs de Vidéofemmes. Vidéofemmes qui s'occupait de la relève, en fait, féminine au niveau du cinéma et puis à la diffusion aussi, surtout des films des femmes, ce qui est important. Et donc, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de cohorte qui vise donc à former ces jeunes dames-là à ce qu'elles sentent outillées, parce que c'est souvent ça qui arrive, malheureusement. Les femmes dans le milieu du cinéma souvent se sentent pas nécessairement légitimes de dire « moi, je vais faire de la caméra, moi, je vais être éclairagiste, moi, j'ai envie d'être scénariste, j'ai envie d'être réalisatrice. » Et là, pendant, mon Dieu, plusieurs mois, là, je sais plus, c'est 9 mois, en fait, j'ai pas la durée exacte, mais ils ont eu toutes sortes de formations à la réalisation, à la présentation de leur projet. Comment présenter ton projet? Comment monter une demande de subvention? Comment manipuler une caméra? C'est quoi le matériel technique pour plus avoir peur, finalement, en quelque sorte, de manier ce matériel-là, puis se dire « Hey, moi, je suis capable d'y aller. Je peux aller sur un plateau. Je peux faire ma place. Il y en a pour moi aussi. » Et donc, on a eu l'occasion donc d'aller suivre des petites bribes de leur formation tout au long, autant en éclairage qu'à la caméra, entre autres, avec Claudia Kidney-Bolduc. On va entendre, entre autres, Julie Lambert, qui est une célèbre réalisatrice ici à Québec, qui a fait un film de chasse de filles, entre autres.
Elle était dans ma cohorte.
Oh! C'était en 2010, c'est ça?
Oui, exact.
Voilà. Puis tu vois, Claudia aussi était dans une cohorte, mais elle, en 2015. Et Madeleine Aubin, qui est la directrice artistique, en fait, de Spira. Mais c'est ça, j'aimerais bien qu'on entende cette belle et merveilleuse Julie Lambert qui nous parle de son expérience dans les labos.
En 2010, j'ai eu la chance de faire les labos au tout début de ma pratique où je ne savais pas encore que je voulais vraiment faire ça comme métier. Et ça m'a donné vraiment une lancée, ça m'a donné une confiance, en fait, pour faire un premier film. Parce que souvent, on a le syndrome de l'imposteur, beaucoup de cinéastes longs. Les femmes, je ne sais pas si on l'a peut-être un petit peu plus que les autres. Mais bref, ça donne vraiment une tape dans le dos pour se dire, ben, fais-toi confiance. Et c'est quelque chose, ça marchera ou ça marchera pas, mais le chemin parcouru va être important. Donc, j'ai vraiment un très beau souvenir de sororité, surtout avec les autres filles avec qui on était à ce moment-là.
Le premier, juste Céline, droit de corps.
Moi, j'ai participé au labo, la dernière cohorte en 2015. Dans le temps, c'était une cohorte de 9 femmes de 35 ans et moins. Puis on a touché un peu à tout, puis d'apprendre des femmes qui étaient passées par là avant, celles qui ont parti vidéo femmes, tu sais, ça c'était vraiment inspirant.
C'est beau. Je suis
J'ai là la nouvelle cohorte, je suis rendue formatrice et marraine. Donc là, c'était comme un 360 là, de pouvoir être appelée à maintenant aider une nouvelle génération.
Je suis vraiment contente d'être ici. Je trouve ça inspirant, ça me fait du bien.
Et là, on vient d'entendre Mélanie Carrier.
Femme exceptionnelle de Mofilm, en fait, qui font d'ailleurs, il faut que je fasse un aparté. Es-tu allée voir l'exposition au Musée de la civilisation?
Je suis allée le jour même, mais la porte était fermée. Oh! Fallait que j'attende à l'inauguration du soir, donc je vais remettre ça à très bientôt.
Oui, donc ils ont fait de leur film Errance en retour, qui s'intéressait aux réfugiés Rohingyas. Je ne suis pas sûre que je le prononce comme il faut, mais bref, ils ont fait une rencontre magnifique avec Mohamed Chofi, qui était un de ces réfugiés qui est venu au Québec. Et puis, de cette rencontre-là, ont décidé de faire une magnifique exposition qui est une exposition de petites maquettes, en fait. Il y a des petits personnages, des petites maquettes tout le long. Et c'est en audio, donc on se promène dans l'exposition avec des casques sur la tête. C'est émouvant, c'est touchant, c'est tout simple, mais c'est vraiment une magnifique exposition à ne pas manquer, donc au Musée de la civilisation. Mon petit aparté. Mais ceci dit, Mélanie Carrier était là et j'ai eu la chance d'être là également pour écouter cette critique-là. Je dois dire que je suis vraiment admiratrice de ces jeunes femmes-là qui ont énormément de courage d'entrer dans ce processus-là déjà, qui est exigeant, de créer un film au bout du compte, de s'engager à créer un film et des films qui étaient, ma foi, vraiment excellents et de présenter à ce moment-là devant tous et d'accueillir la critique, bien sûr, constructive, mais quand même de recevoir de la critique d'un peu tout le monde, parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient, mais il y avait aussi des choses qui ne fonctionnaient pas. Ils l'ont fait avec beaucoup d'ouverture d'esprit, de modestie, beaucoup aussi de respect les unes envers les autres. Tout le monde a vraiment critiqué énormément les films des autres, mais toujours avec énormément de respect. Et ce qui en est découlé par la suite était vraiment des films de qualité. Donc, je trouve que c'est un magnifique projet qui est hyper inspirant pour ces femmes qui ont vraiment beaucoup de talent et qu'on espère donc qui vont poursuivre aussi leur route dans le milieu du cinéma.
Oui, le temps file, tu voulais
comme toujours
faire un petit aparté sur la finale du Cabaret Festif.
Ah oui, rapidement. Ah oui, ben j'oubliais. Cabaret Festif qui se termine donc la semaine prochaine, le 29 mars, le samedi. Et puis, ben, comme on offre un prix coup de cœur de la Fabrique culturelle, on vous invite donc à aller prendre notre billet, aller voir. C'est vraiment un des meilleurs publics qu'on peut avoir, c'est celui de Charlevoix. Donc, c'est à l'hôtel Le Germain, d'ailleurs, de Charlevoix. Donc, si je ne m'abuse, il y a Cracha, qui est dans la finale. Il y a Easy Tiger, Vael, j'espère que je le prononce comme il faut, et Valse Fréquence. Donc, allez écouter ça, allez voir ce qu'ils font, et puis, ben, venez me rejoindre. J'y serai, d'ailleurs, pour remettre un prix.
Et là, en terminant, un petit extrait musical de Audrey Emery.
Oui, en direct des îles de la Madeleine. Elle a une voix magnifique. Elle nous chante, en fait, son amour pour l'île.
Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci
on se retrouve dans deux semaines. Bon début de printemps. Joyeux équinoxe. Joyeuse journée mondiale de la francophonie et du conte.
Oh mon Dieu, mais tu les connais toutes.
J'essaye. Les plus importantes, j'essaye.
La lune bleue, lui. Rappel au nid, mémoire d'errance de sens, d'espérance à minuit. J'entends la mer murmurer que les temps changent. De ne pas m'accrocher, surtout ne pas résister. Les vagues calmes aux proches, cailloux en poche, mon regard égaré. À t'aimer, mais
Cette chronique vous a été présentée par la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
CKRL 89.1.
CKRL 89.1.
Premier acte, le collectif Verdun présente la pièce de théâtre Coupe à blanc dans une mise en scène de Charlie Cameron Verge.
Je suis désolée, mais c'est vrai. Si même la classe moyenne a essayé d'agir...
Là, mais on peut pas constamment mettre le concept de fin du monde sur le dos des individus.
Ce que je dis, c'est juste...
Regarde, je peux bien croire qu'on exploitait des ressources pis tout, mais à un moment donné, il y a toujours bien des limites.
Coupe à blanc, du 18 mars au 5 avril. Rendez-vous à premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse Desjardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec et Le Soleil.
Grâce à Poil et Plume, votre animal de compagnie se sentira heureux. Poil et Plume, une animalerie de quartier, vous offre de la nourriture pour votre chien, chat, vos oiseaux et rongeurs. Des accessoires pour l'hygiène de votre animal, de la litière agglomérante d'argile et bien plus. Vous recherchez une nouvelle diète pour votre chien ou chat? Chez Poil et Plume, retrouvez les produits From, Boréal, Go et bien d'autres. Un service de livraison locale. Poil et Plume, des conseils à profusion par des gens d'expérience et passionnés. 569 3e Avenue à Limoilou et 770 rue Saint-Jean. Suivez-nous sur Facebook.
L'incroyable Festival de contes et menteries de Québec est de retour avec la crème des conteurs et conteuses des galaxies les plus proches. Ne ratez pas les activités des 20 et 30 mars à l'espace 400 en collaboration avec Manif d'Art. Du 3 au 5 avril, le festival fera voir des artistes de tous les horizons culturels. Ne manquez pas le grand spectacle Guerre et Poux, présenté simultanément en français et en langue des signes québécoise, les chicanes de clocher et le grand concours de menterie. Le tout présenté à la Maison de la littérature.
Pour plus d'informations, lesamisimaginaires.ca. Notre billetterie est solidaire et flexible.
L'Harmonie des Saisons, orchestre de chambre et soliste, propose un concert de musique sacrée à l'occasion du carême intitulé « Méditation et lamentation ». Au programme, des chefs-d'œuvre de Bach et de Buxtehude. Le vendredi 28 mars à 19h30 à l'église Saint-Dominique. Billets sur harmoniedessaisons.org.
La troupe de théâtre Les Grands Enfants célèbre leur 35e anniversaire avec une saison 100% québécoise. Du 7 au 10 mai, nous vous présentons Noces de tôle, une comédie de Claude Meunier dans une mise en scène de Valérie Boutin. Les représentations ont lieu à la Polyvalente de l'Ancienne Lorette du mercredi au samedi à 19h30 ou samedi après-midi à 14h. Les billets sont au tarif de 22 $ ou 18 $ pour étudiants. Billetterie en ligne sur lesgrandsenfants.com.
Première loge vous est présentée grâce au soutien de la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou. Ensemble, soutenons la radio d'ici qui enrichit notre culture locale et rassemble notre communauté.
Vous écoutez Première Loge sur les ondes de CKRL. C'est aujourd'hui l'équinoxe, donc l'arrivée du printemps se prépare. Peut-être que vous avez hâte de vous mettre les mains dans la terre et de retrouver votre petit jardin communautaire ou vos bacs que vous avez sur vos balcons. Eh bien, j'accueille aujourd'hui Lily Michaud qui nous propose un livre aux éditions Multimonde, Protéger son potager des ravageurs et des maladies, pour une genre de synthèse de tout ce qui pourrait être des véritables défis dans vos lopins de terre. Donc, c'est avec elle qu'on va en discuter à l'instant. Lily Michaud est avec nous au bout du fil. Bonjour, Lily.
Bonjour, Pamela.
Alors, vous êtes agronome urbaine, donc vous en avez vu de toutes sortes, des ravageurs et des maladies au fil des années. Qu'est-ce qui caractérise les derniers printemps et peut-être celui qu'on va vivre?
Ben, en fait, il y a le printemps, mais c'est surtout l'été que les ravageurs arrivent. Ben, quoi qu'il y en a qui arrivent assez tôt le printemps, mais à chaque année, c'est à peu près... On parle des ravageurs au potager, là. C'est souvent les mêmes. Puis, il y a des insectes, mais il y a aussi d'autres petites bestioles comme les limaces. Mais je dirais que la première chose, justement, c'est le bon moment d'y voir, parce que moi, je parle tout le temps d'abord en prévention. Alors, on essaie tout ce qu'on peut faire pour prévenir les dommages. Ben, c'est déjà le temps d'y penser. La façon dont, qu'est-ce qu'on va cultiver comme légumes, de quelle façon on va aménager si on a un potager. C'est toutes des notions qui sont très, très importantes. Dans l'approche écologique, hein, je dis souvent, c'est d'abord et avant tout une approche de prévention. Et vraiment, en dernier recours, qu'on va aller chercher des produits, même ceux qu'on appelle les biopesticides, là, c'est pas sans danger pour nos bonnes bébêtes aussi. Fait que faut prendre garde.
J'imagine que pour certains débutants dans le domaine du potager ou qui apprivoisent un petit lot dans un jardin communautaire, ça peut être décourageant si on a un été ravagé, par exemple.
Oui, c'est sûr que ça peut être décourageant si on ne sait pas ce qui se passe. Mais à partir du moment où on réfléchit un peu, je reviens là-dessus, l'approche écologique, c'est aussi une approche, dans le mot écologie, ça comprend l'éducation des organismes vivants et du milieu dans lequel ils évoluent. Ben, quand on a un jardin, il faut étudier, il faut réfléchir. C'est pas une approche là de solution toute faite où on a un problème puis on claque des doigts puis on a un produit puis on règle ça. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir. Puis pour ça, ce que je dis souvent aux débutants, là, c'est commencer petit. Commencer avec quelques légumes seulement, les plus faciles, tomates, haricots, par exemple, même laitue. Et commencer avec des choses faciles, puis mieux les maîtriser plutôt que je vois des gens qui sont tellement ambitionnés qu'là, ils partent dans des gros projets dès le début. Et là, ils perdent le contrôle parce que, justement, il y a des problèmes de ravageurs et de maladies. C'est de ça que parle mon livre. Et là, ben ils sont un peu découragés puis ils abandonnent. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Donc, il vaut mieux y aller petit, cultiver au début quelques légumes, bien les maîtriser, puis comprendre aussi ce qui se passe quand il y a un dommage. Qui a fait le dommage? Des fois, on accuse, par exemple, le perce-oreille. Les gens n'aiment pas ça, les perce-oreilles. Puis là, ils ont vu un perce-oreille, puis ils disent « Ah, mon Dieu, les perce-oreilles envahissent mon jardin, puis ils font des dommages. » Bien, souvent, les perce-oreilles vont arriver des fois après les limaces. Si les limaces font des trous, par exemple, les limaces, on peut dire que c'est un ravageur majeur. J'ai déjà vu des limaces faire des trous dans mes tomates, puis après ça, un petit perce-oreille qui s'est caché dedans parce que les autres, ils cherchent les cachettes. D'ailleurs, le perce-oreille, je l'ai mis dans la catégorie des qui sont à la fois alliés et ravageurs. Donc, c'est ça, il faut observer, faut voir ce qui se passe là.
Il y a les écureuils aussi, qui sont oui. pas qui oui. peuvent débulber là, et tout ça, là.
Oui, là on parle des plus gros mammifères. Ça peut arriver aussi. Il faut avoir l'œil. Il n'y a pas je parle évidemment de différentes stratégies pour essayer de les confondre un peu, mais il reste que la méthode la plus efficace, c'est de ne pas leur donner accès. Alors, il faut trouver des stratégies pour qu'il y ait accès à certains. Moi, je sais que j'ai identifié certains légumes qui aiment vraiment beaucoup. Entre autres, mes cerises de terre, ils adorent les cerises de terre. Surtout qu'il y en a une qui est mûre, elle disparaît. J'ai la chance d'avoir un petit balcon en plus de ma cour, là, où est-ce que ils sont pas capables d'y avoir accès. Donc, moi, systématiquement, les cerises de terre, c'est là qu'ils sont cultivées.
Et vous avez
c'est
tout vous avez tout un chapitre justement où vous parlez de l'insecte à la fois allié et ravageur.
Oui.
Comment on peut en faire des alliés?
Ben en fait, il y a surtout beaucoup d'alliés, c'est de les reconnaître. Tu sais, on connaît déjà les abeilles, mais il y a plein d'autres alliés là qui travaillent pour nous au jardin. Il y a la coccinelle, ça aussi, on connaît la coccinelle. Il y en a qu'on connaît moins. Je pense au carabe, qui est un gros coléoptère noir qui peut faire peur un peu, mais c'est un allié. C'est un allié parce qu'il se nourrit d'insectes nuisibles. Donc ça, c'est avec la connaissance. Comme je disais, là, il faut prendre le temps d'étudier puis de voir ce qui se passe dans notre jardin. Puis c'est quoi la bestiole que je viens de rencontrer? Est-ce que c'est vraiment un ravageur? Ou est-ce que, au contraire, c'est un allié? Ou encore, c'est ni un ni l'autre, mais c'est quand même une petite bestiole qui entre dans le système, qui sert de nourriture à un autre. Donc il y a aucun insecte ou autre petite bestiole qui est inutile dans la nature. Ils sont là parce que ils servent de nourriture pour un autre souvent. Donc il faut étudier un peu, puis regarder, puis faire attention à notre environnement. Je parle beaucoup dans la première partie de la diversité. Comment c'est important quand on aménage, même sur un balcon. Moi j'aime beaucoup les tomates, mais si on cultive que des tomates, c'est pas génial. Il faut y aller avec peut-être des tomates, introduire des semi-herbes, introduire des fleurs. La diversité, ça amène une faune diversifiée. Puis dans toute cette faune-là, il y en a plusieurs alliés. Fait que c'est surtout ça le principe là, d'avoir un aménagement diversifié.
Et une fois qu'on a identifié notre insecte ou notre ravageur, on peut se référer à votre livre, mais est-ce que vous savez si aujourd'hui on a des outils, des applications qui peuvent nous permettre d'identifier les insectes pour être certain qu'on se trompe pas?
Ben, déjà dans le livre, j'ai mis un grand tableau qui indique là pour chacun des légumes quels sont les ravageurs ou les maladies qui peuvent affecter. Fait que déjà, ça nous met sur une piste. Après ça, on peut aller voir, par exemple, si j'ai de la betterave. Puis là, je vais voir que la betterave est affectée par la pygomie de la betterave. Fait que là, je vais voir ma pygomie, puis là, je reconnais exactement les dommages que j'ai remarqués dans mon jardin. Fait que là, je sais quoi faire pour minimiser le problème et pour le contrôler. Fait que c'est surtout ça qu'il faut faire. Mais identifier, c'est la première chose. Je dis souvent, quand il y a un problème, première chose, avant de sortir les armes de destruction massive, là, il faut identifier. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a identifié, ben peut-être que je vais décider de rien faire parce que peut-être que c'est pas vraiment un ravageur majeur. Puis je peux tolérer un petit dommage là qui est pas grave, qui compromettra pas ma production. Si vraiment je vois que ça prend de l'ampleur, ben là on peut y aller sur des méthodes, on appelle ça des techniques physiques, des barrières, des pièges, toutes les techniques qui vont être efficaces, mais qui n'auront pas d'effet négatif sur notre santé et sur l'environnement. Après ça, si vraiment j'y arrive pas, ben là, il y a quelques produits, je les ai identifiés dans mon livre, quelques produits, on appelle ça des biopesticides ou des pesticides à faible impact, qu'on peut utiliser. Et une fois qu'on a fait ça, ben là, faut réfléchir un peu, faut dire, est-ce que je vais avoir le goût de traiter même avec ce produit-là chaque année? Est-ce que c'est ça que je veux faire dans le jardinage? Peut-être que je vais peut-être décider que ce légume-là, il est trop compliqué, il est trop sensible aux ravageurs ou aux maladies, puis je vais peut-être laisser tomber l'année prochaine. Alors, c'est toutes des stratégies là, que je propose dans
Et
mon
si on est un, si on a un loup dans un jardin communautaire, est-ce que les ravageurs se propagent systématiquement d'un loup à l'autre ou pas nécessairement?
Ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui volent. Hein? Il y a beaucoup d'insectes parmi les ravageurs. C'est que c'est sûr que ceux qui volent, oui, c'est possible. C'est pour ça qu'ils vont ouvrir l'œil. Ça ne veut pas dire nécessairement, mais oui, c'est sûr que ils seront pas loin là. Ils vont avoir un accès facile au jardinet du voisin.
Mais en tout cas, je pense que
faut que tout le monde y voit. Là.
Je pense que justement votre livre peut devenir une référence essentielle pour toutes les groupes communautaires et collectifs là, qui partagent un espace de potager qui doit être tenu et organisé par plusieurs personnes. Donc ça peut vraiment aider d'avoir votre livre sous la main.
Effectivement, je pense que ça peut vraiment aider à passer un été agréable et avoir des récoltes, parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut, hein? Avoir des récoltes. On veut bien en donner un peu là aux ravageurs. Et je dis souvent, les ravageurs, c'est ceux qui mangent des plantes avant nous autres. C'est pas pour faire mal, mais on voudrait pas qu'ils les mangent toutes. Et qu'on veut des récoltes, enfin, tout au long de l'été, finalement.
Bien, Lily Michaud, merci beaucoup pour tout ce travail d'avoir répertorié toutes vos connaissances dans un livre. Protéger son potager des ravageurs et des maladies, c'est publié aux éditions Multimonde et vous y trouverez toutes les astuces pour prévenir, comme vous nous avez parlé en début d'entrevue.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bon été et bonne récolte. Merci. Bye bye. Alors, c'est le temps d'écouter une chanson. On va écouter Potager, une chanson de LAF. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'un concert qui aura lieu dimanche.
On s'est déjà fait pogner dans un rêve en train de voler, ça là qu'il faudrait juste y croire. Je suis dans le ciel comme une prière qu'on lance en l'air à la volée sans y penser plus que ça. Ok, beaucoup me parlent en espèces, j'entends juste en respect, on m'appelle mon espace, yeah. Je pleure dans le pastis, pas besoin qu'on se force plus, sur une autre planète je pose pied. Tête à l'envers dans le manège, prends les kilos puis j'y berne. C'est aussi ce qu'il nous fallait, puis j'ai le feu au kérosène, yeah. Toutes les gosses sont fêlées, yeah. L'infini c'est le fêlée. C'est comme si l'envie de conquérir avait décové les feelings, yeah. Pression sur le plexus, on a rempli le cendrier. Pression sur le plexus, pense trop. La famille en visite, difficile de s'ennuyer. On amène les fils, on dans le nord. Laisse-moi, j'suis dans un mood. Ok, laisse-moi faire, focus sur mes movements, yeah. Laisse-moi, j'ai le droit de fuir le moule, yeah. Ok, laisse-moi courir vers le futur frérot, j'ai dit laisse-moi, j'bouge.
J'fais le grand saut dans la navette, dans l'alambic, d'autres facettes, j'voudrais jamais revenir, oh yeah. Mon aventurier des canettes, j'dois m'assurer que la cassette arrête de jouer en loop one day. J'ai fait pousser un arbre dans le pays, Marie-Marie-Land en day. J'ai mis trop d'efforts dans le potager pour voir le fruit incendié. C'est déjà dit, y'a pas de plan B pour un canard à la patte cassée. J'ai pas de solution qui fit dans un coffre à gants, mais j'ai tous mes doigts croisés. Let me take a breath for a minute, let me take a trip jusqu'à Vénus. On est ici solide comme un filigrane, on est comme un vaccin ou des gélules. J'ai décrit l'amour dans un feeling. We about to flex comme Crisis. Reste des trucs à faire pour lever les voiles. Reste des trucs à faire, gotta figure.
Il reste des trucs à faire, gotta figure. Pour l'instant, je m'entoure de gens purs. Me font adorer la vie un peu moins dure. Non, j'ai zéro crainte pour le futur. Jusqu'à la figure.
De faire du surplace, toute l'Espagne y a paix sur le gaz. L'important si tu coules, c'est de pouvoir retrouver la surface. Bousiller les sucres à force d'effacer mes peines. J'ai fumé toute ma perche en pensant m'évader de cette terre. Mais c'est pareil, feeling vite chaque fois que la machine s'arrête. Rouler comme des barges à croire qu'on sait plus comment le tout se place. On s'est cruisé comme des inconnus, le font maintenant. Je lis en toi, les liens sont forts quand l'atmosphère est réelle. Viens, on dort dans le miel. Laisse-moi, j'suis dans un mood. Ok, laisse-moi faire, focus sur moi.
Potager, une chanson de LAF à Première Loge. On va changer de registre maintenant pour parler d'un concert qui aura lieu ce dimanche 23 mars à l'occasion de la fin des festivités du 350e anniversaire du diocèse. C'est un duo, c'est Santo Stravagante à la chapelle extérieure qui vous attend. Alors, David Broutier au cornet et Nicolas Lamont à l'orgue et au clavecin. Pour nous en parler, Richard Paré, des Amis de l'orgue de Québec avec nous au bout du fil. Bonjour Richard.
Oui, bonjour Madame Bisson.
Alors, à quoi on peut s'attendre si on est curieux et qu'on se sent interpellé par la musique de ces objets, instruments anciens?
Écoutez, c'est flamboyant. Ce que je peux vous dire, c'est que le répertoire du 17e siècle italien qu'ils vont nous offrir pour ce concert-là est immense. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Ce qui est super intéressant de dire puis de mentionner, c'est que je parle entre autres de David Brouty, qui est le cornettiste. C'est un immense virtuose de cet instrument. C'est un instrument qui était très populaire et très répandu à la fin de la Renaissance, puis tout le 17e, en Italie et en Europe en général, et ça s'est perdu au fil des années. On s'est mis à en jouer de façon occasionnelle, peut-être des gens qui étaient de très bons trompettistes, mais qui n'étaient pas nécessairement des cornettistes. Lui, c'est vraiment un cornettiste extraordinaire. Alors ça, je pense que ça va être une découverte pour plein de gens. Et l'organiste, bien sûr, qui est quelqu'un qui a eu l'occasion de jouer des instruments d'époque anciens, comme il y en a une quantité importante en Italie, notamment. Mais je pense qu'ils font des concerts aussi en dehors de l'Italie. Ils ne restent pas que là. Ils ont joué en France, ils ont joué en Espagne, ils ont joué en Allemagne aussi. Mais je pense que c'est la première fois qu'ils viennent ici, au Québec, et je pense que ça vaut la peine. Je vous mentionne, il n'y aura pas de clavecin. Ça va être uniquement orgue et cornetto, tout le concert. C'est un programme vraiment consacré à ça.
Et c'est vous, les amis de l'orgue de Québec, qui les avez invités ici?
Oui, exactement. Et j'étais très content de parler avec Mme Essertaise, qui représente le Musée de la Civilisation, la chapelle du Musée de la Civilisation, qui voulait se joindre au projet et d'intégrer ça pour finaliser les activités du 350e anniversaire du diocèse. Puis c'est fantastique. Alors, c'est une collaboration avec le musée et les Amis de l'Ordre de Québec. Et je pense que c'est... moi, je me dis, faut vraiment vous déplacer. Puis s'il y en a qui veulent entendre, sur YouTube, il y a beaucoup d'extraits qui ont diffusé ces Seicento Stravagante. Ça peut donner une très bonne idée de ce que ça va donner.
Bien, je pense qu'on pourra... je vais essayer de trouver quelque chose à diffuser d'ici la fin de l'émission pour nous donner une idée. Mais sinon, le concert a lieu à 14 heures, si je ne me trompe pas.
Exactement, 14 heures, à la chapelle du musée, qui était la chapelle extérieure du séminaire de Québec. Je pense que les gens connaissent. Et une chose intéressante à mentionner, c'est que l'orgue... qui est là, c'est une reconstruction du premier orgue de la basilique de Québec, qui a été détruit, bon, qui a été construit en 1753, détruit en 1759 par les bombardements anglais, n'est-ce pas? Mais on a retrouvé dans les archives de Paris le devis de cet instrument-là. Alors, c'est une reconstruction qui est magnifique, ce qui fait qu'ils vont jouer sur un instrument qui est tout à fait comparable aux instruments historiques qu'ils ont en Europe, avec un diapason ancien, un tempérament ancien. Ça peut faire peur au monde quand on dit tempérament ancien, mais je vous assure, c'est magnifique, c'est flamboyant.
Est-ce qu'on doit jouer avec des gants blancs pour préserver...
Non, pas du tout. Au contraire, c'était fait pour être joué par des humains avec leurs états d'âme. Absolument. Alors, je pense qu'il y a encore moyen de jouer ça de façon tout à fait sans réserve.
Alors, ça dure 120 minutes, le concert de 14h à 16h. Il y a des prix abonnés ou étudiants pour ceux qui veulent se procurer des billets.
Absolument.
C'est ça.
Et ça peut être à l'entrée aussi, 20 $ réguliers, 15 $ étudiants puis abonnés du musée.
C'est génial. Alors, pour terminer et conclure le 350e anniversaire du diocèse de Québec, un beau rendez-vous musical, et je propose qu'on écoute un petit extrait de ce que j'ai réussi à trouver pour vous faire entendre l'alliance entre le cornetto et l'orgue. Merci beaucoup, Richard Paré, d'avoir été avec nous.
Ben, merci à vous. Au revoir.
Bonne fin de semaine. Alors, on écoute un petit extrait de Seicento Stravagante. ¶¶ petit extrait de Sesento Stravagante, un concert qui aura lieu ce dimanche 23 mars de 14h à 16h à la chapelle du séminaire. Et les billets sont en vente directement sur le site du Musée de la civilisation, mcq.org, si ça vous intéresse d'y assister. Donc, un spectacle de 120 minutes pour une modique somme de 20$ si vous n'êtes pas abonné au musée ou si vous n'êtes pas étudiant. Déjà, le temps de se quitter, il fait beau, je me ferai plaisir de marcher sous les rayons du soleil avant qu'il se couche. Et dès 18h, l'équipe de Fahrenheit 89.1 sera avec vous pour parler de cinéma et de littérature. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour parler avec notre chroniqueur Dominique Lapointe de la pièce Histoire de la violence présentée au Théâtre Le Diamant dès ce soir. On parlera aussi de poésie avec Louis Moffette. Et comme c'est la journée du théâtre pour l'enfance et la jeunesse demain, eh bien, on parlera aussi de ce qui se passe au Gros Bec. À demain!
Je remercie chaleureusement ses partenaires, la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Caisse des Jardins de Limoilou, qui soutiennent la radio d'ici et contribuent à enrichir notre culture locale et à rassembler notre communauté.
CKRL.
Bonjour, c'est Michel
et Pierre Jobidon,
vos épiciers du supermarché Pierre Jobidon. Nous sommes très heureux de soutenir le Radioton 2025 de CKRL, votre radio communautaire et culturelle.
Ensemble, faisons une différence pour notre paysage médiatique local. Votre générosité compte énormément.
Le Radioton, du 25 au 27 avril.
Je suis la soprano Élisabeth Saint-Gelais et je vous invite à prendre la route des concerts. Au programme, des moments musicaux classiques, magiques, des lieux parfois méconnus, des salles patrimoniales, des paysages enchanteurs à contempler un peu partout au Québec. Chose certaine, là où vous irez, la musique vous attend et saura vous conquérir. Alors prenez l'air et suivez la route des concerts.
Premier acte et le collectif Verdun présente la pièce de théâtre Coupe à blanc dans une mise en scène de Charlie Cameron Verge.
Je suis désolée, mais c'est vrai. Si même la classe moyenne a essayé d'agir...
Là, mais on peut pas constamment mettre le concept de fin du monde sur le dos des individus.
Ce que je dis, c'est juste...
Regarde, je peux bien croire qu'on exploitait des ressources puis tout, mais à un moment donné, il y a toujours bien des limites.
Coupe à blanc, du 18 mars au 5 avril. Rendez-vous à premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse Desjardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec et Le Soleil.
Créateur d'émotions depuis 1965, le magasin Audiolite est fier d'annoncer sa réouverture au Mégacentre Le Bourgneuf. Sanctuaire des meilleurs produits audio et vidéo des plus grandes marques, la boutique offre désormais un éventail plus large de produits pour tous les membres de la famille grâce à sa boutique conjointe Stéréo Plus Québec. Par son vaste choix, ses judicieux conseils, les meilleures technologies et les meilleurs prix, le magasin Audiolite saura créer l'ambiance parfaite. Rendez-vous en boutique ou en ligne sur magasinaudiolite.com.
La troupe de théâtre Les Grands Enfants célèbre leur 35e anniversaire avec une saison 100% québécoise. Du 9 au 12 avril, nous vous présentons Le Temps des Lilas, un drame de Marcel Dubé dans une mise en scène de Sylvain Perron. Les représentations ont lieu à la polyvalente de l'Ancienne Lorette du mercredi au samedi à 19h30 ou samedi après-midi à 14h. Les billets sont au tarif de 22$ ou 18$ pour étudiants et l'abonnement pour voir les trois pièces est en prévente à 50$ jusqu'au 1er avril. Billetterie en ligne au lesgrandsenfants.com.
Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca.
Bullshit dripping off the chin.